VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Ouagadougou, 17h à Niamey. Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal d'information. Dans l'actualité africaine, au Congo, une quinzaine de partis de l'opposition appellent le président Denis Sassou Nguesso à engager sans délai un dialogue national à l'approche de la présidentielle prévue en 2016. D'après l'AFP, le collectif de l'opposition demande également l'élaboration d'un calendrier rigoureux des différentes opérations préélectorales et électorales. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des déplacés ont commencé à rentrer à Mulenge après la fin de l'offensive de l'armée contre des rebelles hutus rwandais. Salwa Jaafari.
Les habitants de Mulenge, localité du sud de la province du Sud Kivu, de quelques 10 000 habitants qui étaient réfugiés à l'Emira et ses environs, à une trentaine de kilomètres de Mulenge, ont commencé à rentrer depuis jeudi soir, a précisé à l'AFP un habitant de l'Emira. On ignore combien de gens précisément étaient concernés, mais un responsable d'association a évoqué plusieurs centaines de personnes rentrant chez elles. Jeudi, un officier de l'armée sur le front avait dit que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient repris Mulenge et des villages environnants. Il a ajouté que l'armée poursuivait les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, dans les grandes forêts où ils se sont retranchés. Les troupes régulières ont déclenché mardi, sans l'appui des casques bleus, une offensive au sud Kivu contre les FDLR, dont les chefs sont accusés d'avoir participé au génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, qui a fait quelques 800 000 morts selon l'ONU. Cette opération est la première signalée depuis que l'armée avait annoncé le 29 janvier le lancement d'une offensive contre le FDLR, auteur de graves exactions contre les civils congolais et qui se livre à de lucratifs trafics de bois et d'or. La mission de l'ONU, la MONUSCO, avait promis un soutien logistique, stratégique et opérationnel à l'offensive de l'armée, mais elle l'a retiré quand Kinshasa refusait de changer deux généraux, Bruno Mandevu et Sikabwe Fall, chargés de piloter les attaques au nord Kivu. La MONUSCO soupçonne les deux généraux de graves violations des droits de l'homme.
En RDC, la Cour pénale internationale confirme aujourd'hui en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngunjolo Chui, accusé d'avoir dirigé l'attaque d'un village en RDC en 2003, ayant fait plus de 200 morts. L'appel de l'accusation contre le verdict est donc rejeté. Côte d'Ivoire, à la veille du congrès du PDCI-RDA, la candidature de l'actuel chef de l'État ne fait pas l'unanimité au sein du parti au pouvoir. Quatre contestataires refusent de se rallier à l'appel de Daoukro lancé par le leader du parti Henri Konan Bédié, qui préconise un soutien massif au président Alassane Ouattara. Le point avec notre correspondant à Abidjan, Germain Dri.
Samedi 28 février, l'on aura une idée de l'aboutissement de l'appel de Daoukro lancé par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, dans l'optique de demander aux militants de son parti de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara au présidentiel 2015 et à ses cadres de s'abstenir pour cette consultation électorale qui s'annonce. Quatre personnalités du PDCI-RDA qui ont déposé leur candidature à la candidature se sont opposées à cette requête. Une autre conférence a été animée ce jour par le porte-parole du plus vieux parti du pays pour faire les derniers réglages de l'organisation de ce congrès. Étienne Kouassi Agoumani a saisi cette opportunité pour souligner le sens de l'appel de Daoukro.
L'appel de Daoukro, c'est pour sauvegarder la paix. Si quelqu'un veut porter l'habit PDCI pour faire sa publicité, tant mieux. Le vrai candidat du PDCI, ce sera Alassane Ouattara. Et le PDCI va faire cette démonstration-là à l'occasion des élections.
Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
En Zambie, l'ancien ministre des Mines, Maxwell Mwale, a été condamné vendredi à un an de prison pour corruption après avoir accordé irrégulièrement une licence d'exploitation à une compagnie chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir du Fonds patriotique de Michael Sata en 2011, plusieurs personnalités politiques zambiennes ont été inquiétées, dont l'ancien président Banda, des personnalités qui sont généralement accusées de corruption. En République centrafricaine, consultation entre la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, et les autorités de la transition lors de sa visite de travail de 48 heures à Bangui. Le point sur son entretien avec la présidente Catherine Samba-Panza, avec Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine.
Comme vous le savez, la présidente de la transition a accepté, il y a un mois, le transfert de Dominique Ongwen de la LRA à la CPI. Donc, c'était un acte fort de collaboration claire et franche avec la Cour pénale internationale. Même si ce qui s'est passé ne concernait pas la République centrafricaine, c'était des infractions qu'on reprochait à la LRA et à d'autres pays voisins. Mais le fait que ce personnage se trouvait sur le territoire centrafricain a justifié que la République centrafricaine et le chef de l'État de la transition a donné son accord pour une collaboration franche avec la Cour pénale internationale dans sa mission de lutter contre les violations des droits humains. La procureure est venue ici pour remercier et encourager les autorités de la transition.
Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine, au micro de Félix Yepassi Zembrou. L'instance représentant l'islam auprès des autorités égyptiennes Dar al-Ifta a estimé aujourd'hui vendredi que la destruction de trésors antiques en Irak par le groupe État islamique révélait leur ignorance de l'islam, une religion qui au contraire encourage et ordonne la préservation du patrimoine. Pour les djihadistes, les statues ou les tombes favorisent l'idolâtrie, un avis extrêmement marginal, même chez les religieux les plus traditionnels. Enfin, la présidente du Libéria sera reçue aujourd'hui à la Maison-Blanche par le président Barack Obama. Hélène Sirleaf Johnson, en visite à Washington, a rendu hommage aux Américains pour leur aide contre l'épidémie Ebola, le jour même où prenait fin leur mission militaire dans son pays. L'Amérique a répondu, vous ne vous êtes pas détourné du Libéria, a-t-elle déclaré hier au sénateur en exprimant sa profonde gratitude.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, les violences ont repris vendredi dans l'Est séparatiste pro-russe de l'Ukraine, après une courte accalmie au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU veut tenir une réunion d'urgence sur le conflit qui a fait 5800 morts en 10 mois. Par ailleurs, à Washington, le patron des services de renseignement américains se dit favorable à la livraison d'armes défensives à Kiev pour combattre l'insurrection séparatiste soutenue par Moscou. Mais James Clapper a lancé une mise en garde lors de sa déposition hier au Sénat. Chérubin Dorcil.
En effet, a déclaré le directeur national des renseignements devant la commission des forces armées du Sénat, même s'il est difficile de prédire les actions du président Vladimir Poutine, une décision de Washington d'armer les Ukrainiens pourrait amener Moscou à fournir plus d'armes sophistiquées aux séparatistes. À mon avis, les services de renseignement croient que la livraison d'armes létales à l'Ukraine provoquerait une réaction négative de la part de M. Poutine et des Russes, a dit M. Clapper. Cependant, d'un point de vue personnel, a-t-il ajouté, il serait favorable à la livraison d'armes défensives aux forces de Kiev. L'influent sénateur John McCain et d'autres législateurs américains insistent pour que l'administration Obama arme l'Ukraine, alors que le soutien de Moscou aux rebelles séparatistes paraît de plus en plus évident.
Et pour être tout à fait complet, l'armée ukrainienne a fait état vendredi de 3 soldats tués et 7 blessés en 24 heures, après 2 jours de répit pendant lesquels aucun mort n'avait été enregistré, ce qui avait donné l'impression d'un cessez-le-feu globalement respecté. En Syrie, au moins 18 personnes ont été tuées vendredi dans des raids aériens et un attentat à la voiture piégée dans 2 localités rebelles au nord-est de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et Syrie toujours, les principales formations de l'opposition syrienne de l'intérieur en exil ont annoncé vendredi être parvenus pour la première fois à un accord sur l'ébauche d'une feuille de route pour mettre fin au conflit qui entrera le mois prochain dans sa 5e année. Le document a été établi durant une rencontre cette semaine à Paris entre des représentants de la coalition nationale syrienne en exil et du comité de coordination nationale pour les forces du changement démocratique, principal regroupement de l'intérieur toléré par le régime. Et enfin, pour finir, des centaines de manifestants ont tenté vendredi, comme depuis 10 ans exactement, dans le village palestinien de Bilin, d'atteindre le mur de séparation érigé par Israël le long de la Cisjordanie occupée. Ils ont été repoussés par des projectiles anti-émeutes israéliens, ont constaté les journalistes de l'AFP. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 50 minutes pour notre prochain journal.